Bonjour Bernard Ferrand.
Bonjour.
Nous nous retrouvons pour la dernière Éco-Infolie de l'année 2016.
Ah, superbe année,
voilà.
Plein d'espoir.
Aujourd'hui, on va essayer de comprendre le monde. Je veux parler des résultats de l'élection américaine avec l'arrivée de Donald Trump. Je pense qu'il faut en parler, on y est en plein dedans, l'investiture est pour ce mois-ci. Mais en bon chauvin, en bonne chauvine d'ailleurs par le cas, quelle retombée pour la France avec nos élections françaises qui vont arriver aussi?
Oh ben c'est très proche en fait. Hein. L'élection de M. Trump aux États-Unis a surpris plus d'un journaliste pronostiqueur, effectivement. Mais cet homme qui est un milliardaire par héritage, il faudrait le rappeler, c'est surtout son père qui était très efficace et très entreprenant. Bien, il a mis sa fortune pour son ambition et il est élu aux États-Unis sur un programme en fait extrêmement simple et qu'il faut rappeler d'une manière aussi très simple. Il s'est battu avec un leitmotiv colossal, moins d'impôts. Je ne fais pas référence au débat en France, dans les primaires des uns et des autres. Moins d'impôts, donc il s'adressait effectivement à ceux qui payaient des impôts. On pouvait le penser. Et ensuite, une réduction logique des dépenses de l'État, mais aussi, et ça c'est intéressant, des dépenses nouvelles. Je pense qu'on va pouvoir y revenir certainement. Sur les impôts, eh bien, il déclare qu'il veut baisser l'impôt des ménages, bien entendu, du moins ceux qui payent des impôts. Et quelque chose d'important aussi, la suppression des impôts sur les droits de succession, ce qu'on appelle les droits de succession, qui font aussi débat dans nos pays européens, puisque certains prônent effectivement à ce qu'il n'y ait plus d'impôts sur droits de succession, et d'autres disent, donc, personnellement, je suis plutôt d'accord avec eux, c'est de dire que les droits sur les impôts sur les successions, bah pourquoi pas, puisque la succession, c'est un enrichissement sans travail. Donc, qu'on réduise les impôts sur le travail, ça paraît logique. Mais la succession, qu'est-ce qu'on a fait, quoi? On hérite, comme on dit. Eh bien alors, c'est ce qu'on appelle un enrichissement sans cause. Mais c'est un sujet qui pourrait mériter toute une séance, en fait. Ensuite, ce que propose M. Trump, c'est la suppression quasi des impôts sur les sociétés, puisqu'il propose de les passer de 35% à 15%, c'est-à-dire trois fois rien finalement, et surtout de baisser considérablement les impôts sur les bénéfices des sociétés faits à l'étranger. Il propose de les ramener à 10%, ceci au motif d'une lutte contre l'évasion fiscale. Comme quoi, diminuer l'impôt, ça permet de lutter contre l'évasion fiscale. C'est assez nouveau. Hein. Pourquoi pas? Ces baisses d'impôts, eh bien sûr, ça se traduira par que va faire l'État pour financer ses dépenses. Voilà.
Est-ce qu'en Amérique, il existe des partis politiques propres comme on en connaît, nous, ici en France ou dans l'Europe ou ailleurs dans le monde? Parce que ça m'a l'air d'avoir été une élection à celui qui avait le plus d'argent pour se la payer.
Oui, mais ce n'est pas Trump qui a dépensé le plus d'argent.
Non, mais sans savoir qui a dépensé plus ou moins.
Alors, aux États-Unis, il existe plusieurs partis. Il a toujours existé plusieurs partis. C'est une démocratie. Mais les périodes d'élection sont des périodes intenses de lutte entre les partis et surtout les candidats qu'ils ont désignés. Et l'argent a de l'influence. Mmh. C'est clair. On estime que pour cette campagne électorale, les candidats, ils ont dépensé plus de 3 milliards de dollars. C'est colossal.
Oui.
Quand on voit. Mais quand vous voyez les images à télé, ces grands meetings, c'est avec un cinéma pas possible,
oui,
etc.
Tout à fait.
Donc, ça ne peut être que des milliardaires qui soient candidats ou des gens extrêmement riches, c'est sûr.
Oui.
Il faut se rappeler quand même que Clinton et puis ensuite Obama avaient présenté un projet de loi pour limiter les dépenses électorales, comme c'est le cas en France, par exemple. Et ce projet de loi a été refusé par la Cour suprême en disant, la Cour suprême s'appuie sur l'article 1 de la Constitution américaine, disant, mais c'est la liberté des personnes.
D'accord.
S'ils veulent dépenser d'argent pour se faire connaître, c'est leur droit.
Ok. L'Asie, qui est en instabilité totale, elle se trouve entre la Chine et le Vietnam. Quel impact vont avoir ces élections américaines sur ce pays, sur ce continent, l'Asie?
Ça dépend de la politique concrète réalisée par M. Trump. Parce que dans son programme, Il faut rappeler, et c'est l'objet aussi de cette émission, que dans son programme, il se propose effectivement de fermer les frontières. On l'a parlé beaucoup du Mexique, mais ce n'est pas que le Mexique qui est concerné, c'est de fermer les importations. Il a proposé de taxer à 45% les importations venant d'Asie, et en particulier de Chine, ou des entreprises chinoises. Parce que quiconque est allé en Asie, regardez autour de vous, vous connaîtrez certainement quelqu'un qui a profité d'un voyage en Asie, il vous dira qu'il a vu des usines au Vietnam, mais en Malaisie, dans les Philippines, en Indonésie. Ces pays ont une main-d'œuvre extrêmement bon marché. Donc même les groupes chinois décentralisent dans ces pays aujourd'hui. Le Sri Lanka, le Bangladesh, vous avez des usines pour les chaussures, les vêtements. Ça aura des effets sur, s'il le fait, cela aura des effets sur le développement de ces pays. Oui. Puisque si les usines reviennent vers les États-Unis, c'est ce qu'espère une partie de ceux qui ont voté pour M. Trump. Il y aura du travail aux États-Unis, pense-t-il, plus, et il y en aura moins dans ces pays.
Ouais,
donc,
lui,
on aggravera le problème mondial. Parce que la Chine, il y a 30 ans, c'était un pays où la main-d'œuvre ne coûtait rien. Tout le monde se ruait pour fabriquer les chaussures que nous portons, les t-shirts, que sais-je. Et derrière, eh bien, bien sûr, en Chine, les Chinois ont demandé des hausses de salaire, la société s'est modernisée, il a fallu investir, etc. Le travailleur chinois est meilleur marché que le travailleur européen, mais pas autant que ça, aujourd'hui. Par contre, je reviens sur ce protectionnisme. M. Trump a annoncé qu'il voulait protéger l'économie américaine et la rendre la plus forte du monde. C'est son projet qu'il a annoncé dans toute sa campagne électorale. Donc, il veut fermer la barrière, et surtout, ce qui est très intéressant pour nous, il veut arrêter les négociations sur la libéralisation du commerce international. Donc le fameux accord TAFTA, où plein ici de Français sont opposés, parmi nous, moi je suis par exemple assez réticent, mais cet accord TAFTA, il est mort et enterré, on peut le dire clairement. Mais les Américains ont toujours des capacités de négociation à obtenir qu'on ouvre nos frontières et qu'eux la ferment. Vous le connaissez bien. Les fromages français ont beaucoup de mal à être vendus aux États-Unis. C'est fermé, ils ont mis des barrières sanitaires, que sais-je, canards, etc. Mais non. Mais ils veulent qu'à tout prix nous acceptions leur machines, leurs techniques, que sais-je, et qui nous polluent l'atmosphère. C'est propre, et tandis que nos produits n'en veulent pas. Et ils ne sont pas toujours dans l'équivalence.
Oui,
et M. Trump, là-dessus...
Il veut exporter, mais il ne veut pas importer.
Très bien sûr.
De quel bord politique peut-on penser que son équipe va être?
Alors, de quel bord on peut le penser? Il y avait déjà des indices. Dans son programme, il y a un point important sur lequel il faut peut-être parler et s'arrêter quelques minutes, c'est faire disparaître la réglementation financière et bancaire. Monsieur Trump,
il s'entoure justement de gens, de banquiers, il s'entoure de
le point de départ,
gens
il est là.
Extrêmes.
Mais il est là, le point de départ. C'est-à-dire que la campagne de Monsieur Trump, il a fait en disant eh bien, il faut que les banques fassent comme avant, ce qu'elles veulent avant la crise, plus de régulateurs, plus de règles à respecter, etc. La fin de la régulation financière, c'est-à-dire on va revoir les banques, comme elles sachent, etc., qui vont se laisser dans des prêts les plus aventureux, qui vont faire un peu n'importe quoi jusqu'à la prochaine crise de confiance. Et
c'est grave,
la logique, M. Trump s'entoure de conseillers venant de ces grandes banques pour cette libération financière. Mais ne pas oublier, parce que là il faut aller dans le détail, il faut se renseigner, il faut descendre un peu sur les personnes. Le père de M. Trump avait racheté en son temps une banque qu'on pourrait assimiler à une banque populaire à l'époque, qui faisait énormément de prêts pour l'habitat, pour la construction, pour l'accession à la propriété aux États-Unis, sans tenir compte des règles prudentielles. Et c'est une des banques qui a entraîné le surprime, la grande crise. Pourquoi ? Il n'y avait pas de contrôle.
Alors,
et c'était cette banque qui avait mis le plus d'Américains de leur domicile en vente aux enchères.
Mais alors pourquoi il veut revenir?
Eh bien, tout le monde a oublié, c'était le père. Tandis que maintenant, c'est M. Trump fils qui est si brillant, qui fait des shows incroyables, qui insulte tout le monde et ça fait rire tout le monde. Je pense que ça aussi, c'est une porte
ouverte. Est-ce que ça, c'est logique pour un pays comme les États-Unis? Que justement, il y a à la tête un monsieur qui fait plus de showbiz que plus de politique.
Ben, écoutez, moi, ça m'inquiète par d'autres aspects. Ça me fait sourire aussi de certains côtés. On se dit, bon, est-ce que c'est preuve d'une grande intelligence quelque part, d'une grande prudence? Mais c'est une démocratie, ils sont nombreux, ils ont voté, ils ont la télévision, ils peuvent lire le journal, ils ont les réseaux sociaux, donc ils se sont fait une opinion. En disant que dans cette opinion, je rappelle, si M. Trump a été élu, c'est avec un programme hyper simple à comprendre, moins d'impôts. D'accord? Ça, c'est le premier point, il ne faut jamais oublier. Deuxième point, je tiens à y venir, c'est qu'il a promis ce qui est extrêmement populaire. Extrêmement populaire. Regardez les élections en France et les dernières primaires de droite. Il a promis une diminution drastique des fonctionnaires. C'est très populaire. Hein, faire disparaître le fonctionnaire. Quelle image on a du fonctionnaire, hein? L'instituteur de l'école, je ne sais pas, l'enseignante au collège. On a souvent la personne qui s'occupe de ceci, de cela, des papiers de la mairie. On a une image un peu tronquée du fonctionnaire. D'ailleurs, cette image du fonctionnaire est aussi pervertie par... on en rigole, quoi. Je fais souvent référence en discussion à la Brigade des Feuilles, et vraiment qui nous fait rire tout à fait régulièrement, hein, le fameux sketch de la Brigade des Feuilles, eh ben oui, voilà, c'est aussi la projection d'une mauvaise image du fonctionnaire territorial. Il faut être clair. Même si des fois, ben effectivement, on peut voir quelqu'un qu'on pourrait dire, tiens, c'est la Brigade des Feuilles. Mais comme dans toute entreprise, dans toute activité, on peut voir des glandeurs, ça existe, quoi. Bon, donc je reviens sur ces motifs. Diminuer les impôts, diminuer alors drastiquement les fonctionnaires, mais peut-être pas tous. Parce que derrière, qu'est-ce qu'il annonce? Des dépenses en hausse pour les infrastructures. Et ça a été populaire aux États-Unis. Parce que ce qu'on oublie vu d'Europe, c'est que ces différents chefs d'État qui se sont succédés ont diminué ou freiné les dépenses publiques. Et cela se traduit aux États-Unis pour un système ferroviaire en ruine, il ne faut pas employer les mots, des autoroutes qui sont cassées de partout, par exemple. Donc effectivement, Trump s'est engagé à investir massivement là-dessus.
Oui, que penser justement de son vice-président qu'il va nommer Mike Pence, qui lui est plus apte à gérer en fait les États-Unis? En tout
là-dessus,
cas, c'est ce que les
je
tout
suis
le
pas
monde.
D'accord, je suis pas d'accord. On peut c'est pas ce que, évaluer
c'est ce que
ça.
Tout le
on
monde
ne
dit.
Sait pas. Je portais un jugement sur les individus vus d'ici. Il faut porter un jugement de ce qu'on a vu. On ne sait pas si Trump est arrivé à être élu. C'est qu'il peut-être c'est pas un individu qui est nul. Il a certainement des capacités énormes quand même dans ce magma d'élections aux États-Unis. Il a fallu qu'il s'entoure de bonnes personnes pour être élu, je ne dis pas pour gérer. Et il a fallu qu'il soit extrêmement performant. Et son vice-président est certainement dans la même catégorie, puisque lui-même, à l'inverse de Trump, qui n'a jamais eu de mandat électoral, jamais. Il arrive comme ça, les pieds dans la soupe, je veux dire. Eh bien, son vice-président, lui, a effectivement occupé de grands postes, etc. Donc, il apparaît peut-être plus meilleur. Mais en quoi? Vous savez, l'important, c'est souvent le choix des collaborateurs. C'est un pays qui nous étonne, de ce point de vue. Qui nous étonne.
L'immigration dans tout ça?
Ah ben, Trump, il a dit il faut que tous les Américains aient un emploi. Donc, ceux qui occupent un emploi immigrés, sans papier, etc., et puis on les vire. Voilà. Très populaire auprès d'une partie de la population. Comme ici. Ici, nous sommes donc à Radio Galaxie. Nous sommes dans le Volvestre plus large, entre les Pyrénées et l'agglomération toulousaine. Vous prenez les axes autoroutiers, vous voyez des villages que je ne citerai pas, comme Bois de la Pierre, ou Lavelin-de-Comminges, ou Cazères, ou etc. Vous voyez des gens qui sont venus habiter là, croyant que c'était sensationnel, la terre était pas... Et bon marché, ils travaillent à Toulouse, il faut qu'ils prennent la voiture, c'est long, ça coûte cher, etc. Et vous avez... Et tout d'un coup, il y a eu une crise économique, l'un du couple... Ben, il perd son emploi ou il est en difficulté. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est le drame absolu. Et c'est la faute à qui? Ben, c'est la faute toujours à l'autre. Hein, c'est toujours la faute. Et donc, il y a une partie de notre population qui, comme aux États-Unis, est contre l'autre. L'immigré. Bon, alors l'immigré, il est facile puisqu'on arrive à les identifier. On les voit à la télévision. Dans leur pays, ils se font saigner, zigouiller, détruire. Et ici, on n'en veut pas. Humainement, on voudrait bien, mais on ne peut pas. Voilà le discours que vous entendez. Où est notre nature humaine? Où sont les croyants, tiens, entre autres, par exemple? Que font-ils, hein? Voilà. De ce point de vue, c'est une idéologie, on n'est plus en économie. On est dans la morale, dans l'éthique. Mais alors, aux États-Unis, vous l'avez massivement.
Oui.
Et aux États-Unis, la différence, c'est que ceux qui ont voté Trump, il faut le savoir, c'est toutes les églises évangélistes qui l'ont soutenu. Mm-hmm. Et c'est particulier. Très particulières, ont été très sensibles à la diminution des impôts, semble-t-il. les
Oui,
églises évangélistes
et on le
que nous ne
comprend.
connaissons pas ici.
De Donald Trump au paradis artificiel comme l'industrie du cannabis, les jeunes sans papier, les défenseurs de l'avortement, de l'environnement, bref, tous ceux qui se sont investis dans ces causes ne vont plus être, voilà, ils vont plus être honorables auprès de Donald Trump.
Ah, et non, et non. Je vous dis, on est très proche des évangélistes. C'est-à-dire, Donald Trump, eh bien, c'est un retour en arrière par rapport à la famille. Alors, soyons clairs, nous sommes au mois de décembre, c'est une mission d'économie, on ne sait pas qui sera désigné chez les Républicains tête de liste, mais pour ceux qui ont suivi un peu la primaire des Républicains et le premier tour, voient peut-être une similitude avec un candidat qui dit, eh bien, on diminue les impôts, on diminue les fonctionnaires, etc. Et du point de vue sociétal, on revient en arrière sur, enfin pas tout, mais une partie, le mariage gay, l'avortement, etc. Du point de vue sociétal, c'est à la mode, visiblement, ça fonctionne. Il faut revenir en arrière, il faut se poser en garant d'une certaine morale, en faisant référence à je ne sais pas quoi.
Oui. Mais alors,
Mais ce n'est pas de l'économie et je ne suis pas très compétent.
si on revient en arrière, si je comprends votre logique, on va revenir en arrière, oui, mais les multinationales, elles restent en avant.
Tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a un discours de Trump et puis après, il y aura une mise en chanson avec les grandes firmes qui, elles, feront pression sur M. Trump. C'est pour ça que, par exemple, pour l'immigration, je pense qu'il a fait un discours, mais il ne fera pas cette pratique-là. Parce que derrière, les multinationales qui travaillent à cette main-d'œuvre, elles ne vont pas vouloir en changer. Faites-moi confiance là-dessus.
Quel impact l'élection de Donald Trump avec la bourse américaine?
Ah ben, la bourse américaine, un, était inquiétée au départ, et deux, elle était très contente à l'arrivée. Pourquoi? Parce que le programme de Donald Trump sur la dérégulation financière lui va comme un gant. Les banques et les grands groupes financiers américains, mais pas qu'américains, mondiaux, britanniques, veulent avoir absolument les mains libres de faire ce qu'ils veulent et d'en s'en mettre plein les fouilles. C'est les bonus des dirigeants. Hein? Ne jamais oublier ça, c'est extrêmement important. Donc, ils ont un poids. Et puisque nombreux conseillers de Donald Trump et membres du cabinet qui, semble-t-il, seraient recrutés, viennent de ces centres-là, de ces groupes-là, on peut être sûr que la politique de M. Trump ne se fera pas en défaveur de ces groupes financiers, mais plutôt à leur avantage. Mais pour reprendre dans cette politique des choses importantes, moi j'ai noté que Donald Trump s'est engagé à doubler un peu plus les dépenses militaires. C'est colossal. Il veut rendre l'Amérique forte. Donc économiquement, mais militairement, il se propose de porter la part des dépenses militaires de 3% du PIB à 6,5%. C'est énorme. On va réarmer à fond, on va développer les technologies de guerre, etc. Est-ce que ce n'est pas inquiétant, ça? Est-ce qu'on ne va pas vers une guerre mondiale? Parce que vous savez, à force de fabriquer les canons, un jour ou l'autre, on s'en sert. L'histoire nous l'a appris. Hein? Il y a ça. Deuxième chose dans le programme de M. Trump qui est pour moi très inquiétante, c'est la remise en cause de l'Obamacare, c'est-à-dire d'un système d'assurance maladie pour les plus défavorisés aux États-Unis. Monsieur Obama a eu beaucoup de mal à le mettre en place, beaucoup, une opposition des républicains dans les chambres, à l'Assemblée, énorme. Il y est arrivé. Et c'est une bouée de sécurité par rapport aux véritables Américains pauvres. Eh bien, Monsieur Trump le supprime. Il va le remplacer, c'est ce qu'il a annoncé avant-hier. Donc, nous sommes le 22 novembre, donc je crois que c'est le 21 novembre. Eh bien, il a annoncé qu'il allait réduire ceux qui ont accès et ça serait privatiser de nouveau l'aspect je privatise, c'est-à-dire profitez-en pour faire du pognon, pour faire de l'argent, pour faire des bénéfices sur les plus pauvres. Voilà. Et ça, personnellement, c'est quand même choquant. Mais ça marchera, c'est du business. Monsieur Trump, c'est le candidat élu représentatif du business. Certains ont voté pour lui en
Oui.
pensant que ça allait arranger leur situation.
D'accord.
Ah ben, il a été élu avec une minorité de voix.
Ce n'est pas le peuple pauvre qui a voté pour Donald Trump.
Oh, certains ont voté pour lui. Vous voyez, dans les communautés, que ce soit hispanique ou noire, un pourcentage non négligeable, et en particulier dans l'électorat noir, a voté Trump. Attention, hein, il y a des gens qui sont totalement pour le statu quo. y compris pour des migrants. On a beaucoup parlé des attaques de M. Trump sur les Mexicains. Il y a beaucoup d'immigrés clandestins mexicains aux États-Unis. Mais il y a des migrants mexicains qui sont là depuis 20 ans, qui ont leur carte de séjour, qui ont tout ce qu'il faut, papier. Ben, leurs compatriotes, il y en a certains, finalement, ils n'en avaient pas grand-chose à voir. Donc, comme M. Trump les renvoie, ils étaient tout à fait d'accord. On a vu des interviews dans ce sens à la télévision. Oui, bien sûr, c'est la démocratie. Mais on a le même problème ici. Moi, je vais vous dire, moi, je vais rencontrer, justement, à l'occasion de plusieurs réunions, disons, de culture générale, associative, j'ai rencontré des gens qui sont des fils d'immigrés. Je pense à des Italiens, des fils d'Italiens, des parents espagnols. Polonais aussi, Polonais. Eh bien, je vais vous dire, ces gens-là, comme ça, on discutait, mais ils étaient absolument contre les immigrés, en disant tout le mal possible sur ces gens-là, tout le mal possible, des voleurs, des vauriens, de ceci et cela. Moi, j'en suis resté assis, quoi. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école primaire, j'en avais deux dans ma classe, vous savez comment on les appelait, l'italien, macaroni, ils l'ont porté toute leur vie. Et comment ils ne s'en rappellent pas? Ils ont fait leur place au soleil, tant mieux, c'est des copains aujourd'hui, alors.
Oui.
Mais comment? Où va-t-on dans ce sens-là? On augmente les dépenses militaires, on ira vers la guerre, on est loin de l'économie.
Mm-hmm. Nous parlions de Barack Obama. Barack Obama, justement, veut travailler jusqu'au bout, donc, c'est-à-dire jusqu'à la veille de l'investiture de Donald Trump. Mais il a dit qu'après la prise de pouvoir donc, du futur président, il veillerait au grain et éventuellement, il reviendrait à la charge justement pour... préserver un tant soit peu le peuple américain. Est-ce que ça, c'est possible en Amérique?
Ça veut dire qu'il est, il sera plus rien, mais qu'il se garde le droit de réserve de dire ce qu'il pense sur le gouvernement. C'est une démocratie. J'ai cru entendre un ancien président de la République française, il y a 2 ou 3 jours, dire qu'il se retirait complètement. Ce coup-ci, ça semble sérieux. Mais on peut très bien imaginer, puisque je parle de M. Sarkozy, tout simplement, on peut très bien imaginer que l'année prochaine, dans 2 ans, 3 ans, une interview lui posera quelques questions sur la politique intérieure France et il en parlera. Mais c'est tout à fait normal. Il conserve son droit de parole. C'est lui. Et Obama, il a bien indiqué qu'il conservait son droit d'intervenir et d'évaluer à sa façon.
D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que l'Amérique tendait plutôt à régresser dans son avancement. Est-ce que finalement, cette élection de Donald Trump ne serait pas le retour des 3K, le Ku Klux Klan?
Mais non, je ne pense pas. Il faut expliquer alors à ce moment-là ce que c'est que le 3K. Ça va être un peu long quand même là. Et c'est de la société. Je rappelle très simplement que dans l'aspect de la fin de l'esclavage aux États-Unis, ce qui n'a pas été accepté, ça a donné donc la guerre de sécession. Nous sommes au 19e siècle, en deuxième partie du 19e siècle, une guerre de sécession très violente dans ce pays qui explique aussi la structure politique aujourd'hui. Eh bien, le 3K, c'était des gens qui allaient déguiser, massacrer des gens qui étaient noirs à ce moment-là, parce qu'ils estimaient que soit c'était des voyous, soit ils avaient fait quelque chose de mal, etc.
Donc, ou tout simplement, ils avaient la malchance.
Voilà, ils avaient la malchance, ils les brûlaient, ça faisait des spectacles, bon, passons. Bon, ceci avait tendance à disparaître. Mais, honnêtement, je ne sais pas sur cette symbolique, que si ça réapparaîtra. Ce qu'il faut savoir aux États-Unis, c'est qu'avec l'article 2 de la Constitution, chacun est libre de disposer d'une arme à feu et il peut en disposer de autant qu'il veut et de n'importe quel calibre. Il y a par jour 90 morts par arme à feu, dont environ presque la moitié sont des suicides. Voilà. Donc on tire à tout va, quoi. Alors, tout le monde s'arme ou est armé, sauf quelques métropoles particulières ou mondes particuliers. Parce que les États-Unis, c'est en termes de vie, on ne peut pas parler d'un petit État, en Alabama, etc., et de vivre à New York. Ce sont des mondes différents, de vivre à San Francisco, Los Angeles, et de vivre dans une petite ville du Kentucky. C'est vraiment des cultures très différentes. D'ailleurs, dans le résultat du vote, on le voit. New York n'a pas voté pour Trump. La Californie n'a pas voté pour Trump. C'est des mondes qui sont très différents. Mais il y a des endroits où on n'hésite pas. On le voyait avant, la police n'hésite pas à tirer sur quelqu'un, à l'achever au sol, à coups de pistolet. Tout le monde a vu ces vidéos passer à la télé, etc. c'est une approche un peu différente, en sachant aussi que autant la justice est démocratique, autant le poids de l'argent dans la justice est très important. Celui qui a les moyens de se payer le meilleur cabinet d'avocats ne sera jamais condamné. Mais c'est un peu le cas en France, semble-t-il.
Mais quelles conséquences, justement, peut avoir une élection présidentielle comme celle de l'Amérique avec les déboires qui risquent d'arriver, c'est-à-dire qu'on laisse aller un peu à tout va, libertalien peut-être. Quelles conséquences pour la France ?
Je reviendrai sur l'objet de cette petite émission, c'est-à-dire un peu de l'économie. Les conséquences, c'est que ça va perturber le système et le libéralisme économique au niveau des échanges internationaux, dans un premier temps. Ça suscite une inquiétude, un peu comme le Brexit, mais avec plus de force, que ce soit en Europe ou que ce soit dans les autres pays du monde. Il ne faut pas croire que ce soit totalement neutre. Donc, c'est vrai qu'à partir du moment où vous suscitez une inquiétude, ce n'est pas favorable au milieu du business. Et comme l'on dit très familièrement, il ne faudrait pas que des inquiétudes politiques, géopolitiques, etc., viennent perturber le peuple français dans sa préparation de Noël du premier de l'an, puisque nous y sommes. Et donc, c'est pareil au niveau du monde. Très simplement, si ça sème des inquiétudes, s'il y a des inconnus, comme on dit, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire, on ne sait pas trop. Il a annoncé, mais est-ce qu'il va le faire ? Fermer les frontières, limiter le commerce. Et donc, à ce moment-là, ça aura des effets économiques sur nos pays. Évidemment. Mais là, nous sommes fin novembre, à l'enregistrement des missions, on n'en a pas une idée hyper précise, bien sûr, parce que M. Trump, il a fait une campagne électorale avec des thèmes, et maintenant qu'il est au pouvoir, il est en train de jouer un petit peu mandoline et marche arrière. C'est-à-dire qu'il est en train de modérer beaucoup ce qu'il a annoncé, ce qui, je l'espère pour certains de ses électeurs, ne les entraîne pas à sauter par la fenêtre.
Voilà, on l'a dit, bientôt Noël, donc on se souhaite de bonnes fêtes et une bonne fin d'année. On se retrouvera en 2017, Bernard Ferrand.
Ah oui, j'espère que nous allons continuer brillamment l'année prochaine, puisque ça sera une période, l'année nouvelle, bien sûr, et que chacun la fête brillamment, avec joie, parce que le temps qui passe et que notre planète continue à tourner, quelque part, c'est une chance inouïe, parce qu'entre nous, comme ça, en termes économiques, disons-le, on ne le dira pas trop fort. Mais l'homme n'est-il pas en train de détruire notre planète ? Jusqu'à quand ça va durer ? Bonne fête à chacun et bonne fête de fin d'année.